Grand Angle.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient, c'est l'heure de votre grand angle avec Marc-Aurel Barrez. Entre guerre au Moyen-Orient, hausse des prix du pétrole, manifestations et enjeux électoraux, nous prenons le pouls de la société américaine. Qui sont ces manifestants? Que révèlent-ils des tensions actuelles? Comment les Américains se positionnent-ils face à la guerre en Iran et à ses conséquences? On en parle avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le week-end dernier, des manifestations importantes sous la bannière No Kings, pas de roi, ont eu lieu aux États-Unis. Les organisateurs ont revendiqué près de 8 millions de participants. Qui sont ces gens et à quoi s'opposent-ils ?
Alors d'abord, pour le contexte, il faut comprendre qu'on est dans une année particulière aux États-Unis puisqu'on fête cette année les 250 ans de la Déclaration d'indépendance et que ça a son importance avec ces manifestations puisque l'indépendance a été faite contre le roi d'Angleterre et que les pères fondateurs ne voulaient surtout pas qu'il y ait à nouveau un roi aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a ce nom, pas de roi aux États-Unis, mais aussi, bien sûr, tout le monde l'a compris, parce que on accuse Donald Trump d'une dérive autoritaire, si ce n'est monarchique, et en tout cas de faire des États-Unis une république bananière. Et les opposants sont nombreux, tous ceux qui croient en leur constitution, qui croient en leur démocratie, qui croient en leur liberté, et qui pensent qu'un homme seul ne peut pas dévoyer à ce point-là la démocratie américaine. C'est donc les démocrates, bien entendu, mais bien au-delà, beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens qui ne font pas de politique, beaucoup de gens qui croient à leur vertu démocratique, aux vertus démocratiques de leur pays et qui descendent dans la rue pour le dire.
La guerre en Iran continue. Comment est-ce que la société américaine aujourd'hui se positionne par rapport à cette guerre? Est-ce que c'est une raison qui peut aussi expliquer pourquoi les gens sont descendus dans la rue?
Alors, je vais être un petit peu plus circonspect là-dessus, puisque c'est vrai qu'il y a un courant contre cette guerre, qu'il y a un intérêt certain pour cette guerre, mais c'est encore très diffus. D'abord parce que les États-Unis sont très loin du Proche-Orient et que ça semble très loin comme guerre. Ensuite, parce que les Américains rejettent tout ce qui est guerre et qu'il n'y a pas eu d'effet de drapeau autour du président sur cette guerre. Le désintérêt est assez grand. On le voit dans la presse régionale qui parle très très peu de la guerre en Iran. Or, c'est par là que passe une grosse partie de l'information. Les radios régionales, même chose. Les réseaux sociaux ne débordent pas de nouvelles sur l'Iran. Et les manifestations elles-mêmes contre l'Iran n'existent quasiment pas. Alors, No King a réuni effectivement des gens qui ont eu des slogans contre cette guerre en Iran, en particulier des jeunes, parce que les jeunes sont les plus ouverts sur le monde et que eux ont estimé que il y avait là-dessus un abus de la part du président parce qu'il n'a pas respecté son congrès, parce que il est parti bille en tête, surtout parce que il n'y a aucun but clair à cette guerre et que c'est très difficile pour les Américains de se raccrocher à un effet drapeau quand ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Et pour l'instant, c'est vrai que les objectifs sont changeants quasiment au jour le jour et que personne ne voit réellement pourquoi Donald Trump a engagé cette guerre.
Effectivement, c'est vrai que cette guerre, comme vous l'avez dit, elle est géographiquement éloignée, mais ses effets peuvent se ressentir au jour le jour sur le territoire américain. Parlons peut-être du prix du pétrole, hein, qui a par endroit presque doublé. Est-ce que ça pourrait contraindre Donald Trump à accélérer la fin du conflit en Iran, au Moyen-Orient plus largement ?
Alors, on va faire une réponse en deux temps. Hein. C'est vrai que le prix de l'essence a augmenté. Aujourd'hui, par exemple, il est à 4 $ le gallon en moyenne aux États-Unis, c'est-à-dire en gros à 3,6 au Texas où c'est le moins cher et à près de 6 en Californie où c'est le plus cher. Maintenant, si je le ramène au prix français, ça fait 1 € le litre. Et si je vous dis que ça a été multiplié par 2,5 en un mois, on voit quand même que l'impact est quand même très limité, sauf, et c'est très important, pour tous ceux qui vivent de ce pétrole, à savoir les transporteurs, les taxis, toutes les professions qui font beaucoup de kilomètres. Et Dieu sait si aux États-Unis on en fait du kilomètre, à ce moment-là, ça peut grever un budget. Mais au-delà même de l'essence, c'est l'ensemble des produits qui vont augmenter, puisque si les transporteurs souffrent de ce prix-là, ils vont le répercuter sur le transport et donc sur les produits. Et à la fin, c'est l'inflation qui est touchée. Or, on sait bien que l'inflation a décidé de l'élection de 2024. On reprochait à Joe Biden une inflation qui était pourtant extrêmement limitée, puisqu'elle était plus basse qu'elle n'est aujourd'hui. Et Donald Trump va devoir se battre contre une inflation qui va inéluctablement augmenter dans le mois qui vient, alors qu'on est en année électorale et que les élections de mi-mandat vont certainement sanctionner cette politique.
Vous parliez justement des élections de mi-mandat. Est-ce que vous pensez que Donald Trump y pense au jour le jour vis-à-vis de cette guerre au Moyen-Orient, vis-à-vis de l'augmentation du prix du pétrole, de l'inflation? Est-ce que c'est une donnée qu'il a déjà en tête?
Oui, bien entendu. Les élections mi-mandat sont cruciales pour lui. Pourquoi ? Parce que s'il perd une des deux chambres, il n'existera plus politiquement. Il faut comprendre que Donald Trump est à son dernier mandat, qu'il ne peut pas se représenter quoi qu'il arrive, et que les deux chambres sont nécessaires pour faire passer une loi, puisque contrairement à notre pays, il n'y a pas de navette avec le Sénat et retour à l'Assemblée nationale qui finalement décide. Il faut que les deux chambres votent un texte de loi. S'il perd la chambre, ce qui est le plus certain, il perdra en plus les cordons de la bourse, puisque c'est la Chambre qui décide du budget. S'il perd le Sénat, il perdra la possibilité de nommer des juges ou de faire n'importe quelle nomination dans son gouvernement ou changement dans le gouvernement, puisque ça doit être accepté par le Sénat. Il perdra aussi la possibilité de faire voter des traités, enfin tout ce qui fait qu'un président puisse présider. Ce serait donc la fin du Trumpisme totalement. Ces élections de mi-mandat sont donc absolument fondamentale pour Donald Trump et le Trumpisme.
Donc il va falloir mettre un terme à cette guerre pour les élections de mi-mandat, avant les élections de mi-mandat, vous pensez ?
Et moi, je vous dirais que c'est déjà trop tard. En réalité, les effets qu'on voit gonfler aujourd'hui aux États-Unis, ils vont se poursuivre jusqu'aux élections. Et puis, pour ce qui est de mettre un terme à cette guerre, il faudrait désormais pouvoir se retirer de cette guerre, mais également que tout le monde s'en retire. Or, c'est l'histoire du pyromane. Hein. Quand on a mis le feu quelque part, on ne sait pas comment il s'arrête et si les pompiers vont être capables de l'éteindre. Or là, l'incendie, il est en train de gagner l'ensemble de la région, puisque tous les pays désormais sont plus ou moins touchés, avec tous des morts et des blessés, et que tout ça va laisser des traces qui, dans 5 mois, à mon sens, ne seront pas oubliées.
Du 13 au 18 mars, il y a un sondage qui a été réalisé par Public First pour Politico, dans lequel on pouvait voir que 70% de ceux qui ont voté Donald Trump en 2024 soutiennent les frappes en Iran. Pourtant, il a été élu sur un programme, pas d'intervention à l'étranger. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
Alors c'est très simple, hein. La seule explication c'est la polarisation. Désormais on se situe politiquement dans un camp et on n'arrive pas à imaginer pouvoir passer dans l'autre camp. Ça c'est très compliqué à comprendre pour des gens qui ont grandi dans un monde dans lequel la politique se construisait sur des idées et dans lequel on pouvait passer d'un camp à l'autre si notre camp trahissait les idées. Aujourd'hui la politique se fait autour des hommes. Et les gens adhèrent à un politicien, à un groupe, comme s'ils adhéraient à un fan club. Et à l'intérieur de ce fan club, eh bien, il y a des vrais changements qui s'opèrent. Rendons-nous compte quand même que les MAGA se sont battus pour avancer l'idée que Donald Trump était un homme de paix. Et pendant un an, ils nous ont expliqué qu'il devait avoir le prix Nobel de la paix. Et aujourd'hui, ils se battent tous sur l'idée qu'il doit y avoir une guerre et que cette guerre doit aboutir à l'anéantissement d'un pays avec sa population. C'est assez incroyable quand on regarde le changement de rhétorique qu'il y a pu y avoir. On pourrait faire ça sur un grand nombre de sujets sur lesquels ils ont changé radicalement avec les fluctuations de Donald Trump et de son entourage.
On le sait, les démocrates sont opposés à la guerre de Donald Trump au Moyen-Orient. Vous avez dit que les MAGA, eux, soutenaient Donald Trump. Qu'en est-il du mouvement républicain plus largement ?
Mais alors, il faut distinguer là aussi les électeurs des élus. Les élus ne peuvent pour l'instant rien dire, rien faire, parce que le système américain repose sur un système de primaires, qu'on est en ce moment au cœur des primaires, ce qui veut dire qu'on sélectionne les candidats à la candidature. Et on ne peut pas être choisi comme candidat en titre si on n'a pas le soutien de Donald Trump au Parti républicain. Donc aucun de ceux qui veulent être élus ne vont aller contre Donald Trump. Les seules voix que l'on entend sont des gens qui se présentent contre Donald Trump ou qui arrêtent la politique. Au sein du Parti républicain, il y a quand même un effritement qui montre que les républicains commencent soit à se poser des questions, soit à s'éloigner. En tout cas, dans les sondages, ils expriment un scepticisme qui est de plus en plus fortement élaboré et expliqué. Et aujourd'hui, on a passé d'ailleurs cette barre symbolique des 40%. Donald Trump est tombé en dessous dans la popularité, ce qui manque quand même bien que les républicains sont en train de le lâcher petit à petit.
Le 17 mars dernier, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent, démissionnait en disant que l'Iran ne représentait pas une menace pour les États-Unis. Qu'est-ce que, selon vous, cela dit de l'unité de l'administration américaine vis-à-vis de la guerre de Donald Trump en Iran ?
C'est l'illustration que j'expliquais il y a deux secondes, c'est que c'est très compliqué de pouvoir parler contre Donald Trump en restant soit élu, soit dans son administration. Il a été noyé sous un flot d'attaques très personnelles pour essayer de contrer les effets politiques de sa démission, et ça a donc tué dans l'œuf toute communication qui aurait pu être un peu forte ou un peu reprise. Pour le reste, ce sera un des seuls. Pour mettre sa carrière en jeu ou sa vie personnelle, c'est quand même un sacré sacrifice. Ils ne peuvent le faire que des gens suffisamment solides pour être sûrs qu'ils vont retrouver une place ailleurs ou pouvoir se recaser rapidement. Ils ne sont pas si nombreux que ça.
Merci Jean-Éric Brana.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.